Une troisième chose, j'en ai parlé assez récemment ici, mais je vais quand même le mentionner, ce que je dirais presque une redéfinition de Sangha. Le bouddhisme, traditionnellement, est centré uniquement sur le développement individuel. Et il n'y a rien ça n'est pas mauvais, bien sûr, parce qu'il s'agit, il n'y a que les individus qui peuvent se développer. On ne peut pas changer la structure, c'est chacun de nous qui doit se changer. Dans le temps du Bouddha, les gens qui pratiquaient ensemble vivaient ensemble aussi, mais on n'avait pas vraiment on ne savait pas le mettre entre mots. C'était une collectivité, ils voyaient qu'ils vivaient ensemble, ils s'appelaient Sangha, mais on ne voyait pas très clairement quelle était la différence avec organisation, disons, organisation dans le monde. Et plus tard, cette individualité, pour ainsi dire, s'est cristallisée dans un tout autre modèle, dans le modèle de maître et d'élève, qui est central dans la plupart des traditions répandues ici en Occident, chez les Tibétains. C'est le lama qui dit tout. Chez les dans les traditions zen, il y a un lien très strict entre maître et élève et des règles très strictes de transmission. Et ceci, on aurait l'impression que c'est le modèle bouddhique normal, mais ce n'est pas le cas. C'est un modèle assez récent. Ça ne commence que pas avant le 8e siècle de notre ère, donc quelques 1300 ans après le Bouddha. Le Bouddha lui-même a très explicitement refusé d'indiquer un successeur. Il y a le fameux verset dans le Mahaparinibbana Sutta, où Ananda qui voit que le Bouddha est très malade et qu'il va mourir très prochainement, lui demande plus ou moins d'indiquer un successeur. Avant, Devadatta, son neveu, l'avait demandé aussi. Et ces deux fois, le Bouddha dit chaque fois, non, il n'y a pas besoin de successeur. Mon successeur, c'est le Dhamma. Le Dharma que je vous ai donné. Et il dit littéralement, prenez le Dhamma comme lampe et prenez le Dhamma comme refuge. Et pendant des siècles et des siècles, les organisations bouddhiques ont été de ce genre-là, de pratiquants ensemble. Et Sangharakshita retourne à cette pratique originale. Une chose, il a refusé de se constituer en gourou. Ça a été une des raisons les plus fortes pour moi pour devenir membre de l'ordre, pour m'attacher à cette tradition-ci. Parce que je voyais que Sangharakshita ne se dressait pas comme gourou, qui me disait que tu dois faire ça, tu ne feras pas ça. Par exemple, quand j'ai commencé un centre à Gand, personne ne m'a donné ni la permission, ni l'ordre de le faire. C'était, comment dirais-je, expression de ma propre pratique que j'ai commencé un centre là. Et ça, c'est très typique, je crois, pour notre tradition. Mais je ne l'ai pas fait, je l'ai fait sur ma propre responsabilité, mais je ne l'ai fait pas seul. J'avais mes liens dans l'ordre avec mon précepteur, avec d'autres membres de l'ordre que je connaissais depuis bien longtemps, surtout en Allemagne à ce moment-là. Et je savais déjà la pensée de Sangharakshita là-dessus. Sangharakshita a considère notre mouvement ou n'importe quel sangha dans la tradition du Bouddha comme une sorte de réseau d'amitié et de contact entre des gens qui pratiquent ensemble. Ça, c'est le sangha. Et le sangha est tenu ensemble, pas par des règles, pas par des choses qu'on fait ensemble, mais par la pratique des gens et par les liens de pratique entre ces gens. Et au fond, du temps du Bouddha, c'était le même. Les bhikkhus du Bouddha, c'était des pratiquants ils étaient tenus ensemble par des liens de cette pratique. Il s'est constitué par après une règle qui est devenue la définition d'un moine. Mais ce n'est pas la règle qui fait le moine, c'est la pratique. Et ce n'est pas chez nous non plus une série de règles ou d'habitudes qu'on a ensemble qui nous constituent. Ce qui nous constitue, c'est le fait que nous pratiquons ensemble. Et les relations dans ce sangha sont basées sur aussi quelque chose qui remonte au Bouddha, sur l'amitié spirituelle, Kalyana Mitrata. Le Bouddha ne s'est jamais appelé enseignant. Il disait qu'il était le Kalyana Mitra des gens, des moines et des laïcs qui venaient chez lui. Donc Kalyana veut dire, littéralement traduit, beau et bon, un peu comme dans notre tradition chez les philosophes grecs, le kalon kagaton, le beau et le bon et le beau. Et cette amitié-là, cette amitié spirituelle, c'est un lien entre des gens qui pratiquent ensemble, où il y a deux dimensions dedans. Il y a une dimension verticale, parce qu'il y a parmi nous des gens qui, au moins dans l'un ou l'autre aspect, sont plus évolués que moi. Eh bien, la Kalyana Mitrata, l'amitié spirituelle, consiste dans le fait que moi, je suis modeste assez pour accepter que l'autre, que je peux apprendre quelque chose de l'autre, et que l'autre est modeste assez pour ne pas se constituer un gourou, pour voir, eh bien, c'est une bonne chose que j'ai ce don-ci, et c'est une bonne chose que je peux le partager avec les autres. Ça, c'est la Kalyana Mitrata, et c'était l'attitude du Bouddha aussi. Il se réalisait qu'il avait découvert la libération totale, et il s'en réjouissait qu'il, de temps en temps, il pouvait le partager avec les autres. Pas dire, moi je suis le maître, et je vais vous dire ceci. Non, il s'adaptait à tout le monde, il parlait à tout le monde à leur propre niveau. Et ça, c'est la Kalyana Mitrata. Et ça existe aussi au niveau horizontal, entre, disons, des pratiquants qui, généralement, plus ou moins, ont fait les mêmes découvertes, ont fait les mêmes changements dans leur vie, peuvent se comprendre comme ça et peuvent se soutenir l'un l'autre. Et Kalyana Mitrata est la base même du sangha, de n'importe quel sangha, parce que je suis actif depuis quelque temps dans l'Union bouddhique belge, et je me rends compte que ça se rencontre partout, sauf que on n'a pas toujours les mots pour l'exprimer. Et de temps en temps, moi je connais un cas dans un sangha qui me va vraiment au cœur, un sangha zen de chez nous à Gand, et ailleurs aussi, où par faute d'avoir cette compréhension, ils sont tombés dans un conflit qu'on pourrait résoudre très facilement une fois qu'on laisse tomber la structure de maître-élève et de voir qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Mais je vais continuer à parler avec les deux côtés là. J'espère que les mettre ensemble, mais enfin je ne sais pas si ça arrivera, mais ça vaut la peine d'essayer. Et Sangharakshita, Anissa, et ça c'est la nouveauté, Anissa de contraste avec ce qu'il appelle le groupe. Et groupe, c'est un terme sociologique qui n'existait pas du temps du Bouddha. Et le groupe est défini par le fait qu'il a des idées en commun, des valeurs en commun et très souvent aussi des règles en commun. Et le groupe n'est pas défini par les membres qui se mettent ensemble, mais les membres sont définis par le fait qu'ils appartiennent au groupe. Et bien souvent, un groupe peut être très bénéfique aussi, mais le Sangha ne peut pas devenir un groupe. Parce que dans ce cas-là, c'est l'inspiration qui disparaît. Et ça explique aussi énormément de ce qui s'est passé dans l'histoire du bouddhisme. Le plus souvent, les sanghas, après quelque temps, sont devenus essentiellement des groupes ou en grande partie des groupes. Peut-être qu'il y avait encore des éléments de sangha dedans, et souvent aussi de très forts éléments, mais le groupe devient le point de référence. Comme dans ce sangha, par exemple, la règle que c'est le maître qui dit si et que c'est l'élève qui doit le suivre, ça c'est un élément de groupe et ça pose un problème qu'ils ne savent pas résoudre entre eux pour l'instant. Donc ça a été aussi une des choses qui m'a amené, enfin pas amené, mais que j'ai découvert quand j'étais pratiqué dans le temps, le FWBO, qu'en effet, qu'il y avait encore des éléments de groupe, mais que s'en était conscient, et qu'on s'était conscient que c'est le Sangha qu'il faut constituer.